à tous, je suis Sophie Guédon, organisatrice de cette seconde édition du Sommet Réussir au Féminin. Si vous avez du mal à trouver les bonnes personnes avec qui vous allez travailler, faire votre vie ou simplement devenir amie, si vous avez tendance à être déçue, à avoir le sentiment de vous être fait avoir et que vous voudriez comprendre ce qui vous pousse à faire des mauvais choix, vous êtes au bon endroit. En effet, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Pascal Piquet qui va nous expliquer comment choisir le bon partenaire en amour, en affaires et en amitié. Française vivant depuis 12 ans au Canada, Pascal Piquet est coach de réussite, conférencière, écrivain, formatrice en entreprise et chroniqueuse sur le web dans plusieurs magazines et en radio. Elle est spécialiste des comportements humains et tout particulièrement de la dépendance affective. Elle intervient au Québec, en France et au Maroc. Elle a déjà guidé des centaines de personnes pour reprendre le contrôle de leur vie, se reconstruire pour enfin trouver le bonheur et le préserver. Elle va nous démontrer ici les mécanismes qui poussent vers les mauvaises personnes et nous expliquera les règles du jeu pour faire les bons choix et s'entourer des meilleures personnes, tant dans la sphère privée que professionnelle et sociale. Bonjour Pascal, et merci de nous partager ces consignes de sécurité dans le domaine des relations.
Eh bien Sophie, bonjour, et puis je suis vraiment ravie de partager ça depuis en direct du Québec. Et j'ai une première question à te poser. En fait, pour toi, qu'est-ce que choisir la bonne personne ? Est-ce que c'est un jeu de hasard ou est-ce que c'est une stratégie ?
Ah, moi, je pense que je dirais pas que c'est forcément un jeu de hasard, mais je crois quand même à l'intuition. Alors, c'est peut-être pas la bonne réponse, mais personnellement, j'y vais beaucoup au feeling.
Oui, j'aime beaucoup ça. Effectivement, l'intuition rentre en ligne de compte. Mais en dehors de ça, est-ce que tu penses qu'on peut s'appuyer sur une stratégie particulière pour recruter la bonne personne, que ce soit en amour, en affaires ou même en amitié? Est-ce que tu penses qu'on a des trucs?
Mais je pense que quand on n'est pas habitué, je vais te faire une réponse de Normand, si on n'est pas habitué à travailler avec son intuition, je pense que c'est à ce moment-là indispensable d'avoir une stratégie. Mais personnellement, je vais privilégier l'intuition.
Et sais-tu pourquoi ? Et sais-tu sur quoi repose cette intuition ?
Ah, je suis persuadée qu'elle repose sur un travail qui est fait inconsciemment, mais qui doit certainement faire tout un tas de sélections, d'options à suivre ou à ne pas suivre. Mais ça se fait tellement vite que je ne sais pas ce qui se passe, en fait.
Exactement. La première chose, et on le sait, c'est la première impression. Alors je voudrais te lire une phrase d'un auteur inconnu qui dit « Personne ne vous aimera jamais pour votre travail ou vos réalisations. Les gens vous aiment pour le sentiment que vous leur inspirez. » Donc ça signifie qu'au premier regard, on capte une multitude d'informations conscientes et inconscientes. Donc on va commencer par les informations que l'on capte consciemment, c'est-à-dire il y a ce que l'on voit et ce que l'on entend. Donc, ce que tu vois, c'est le physique de la personne. On s'entend qu'un physique peut être favorable ou défavorable dans le choix de, par exemple, un partenaire pour la vie, mais aussi pour un partenaire professionnel. C'est très important d'être attiré, si c'est pour une vie sentimentale, par la personne que tu as en face de toi. Pour une vie professionnelle, effectivement, ce que l'on va voir de la personne d'en face va être aussi déterminant. Si c'est pour une relation d'affaires, si la personne arrive en jean et en basket, on va peut-être avoir quelques réticences. Enfin, en tout cas, ça dépend dans quel domaine on travaille, on s'entend, mais le code vestimentaire va être important. Donc, ce qui est conscient, c'est effectivement à travers nos filtres de perception, ce que l'on va capter, et je le redis, voir et entendre de la personne. Son vocabulaire, sa façon de s'exprimer, ça va nous donner des informations. Maintenant, pour ce qui est l'intuition, ce dont tu parlais tout à l'heure, c'est ce que j'appelle décoder le site internet subliminal de l'autre. Alors ça, j'ai un petit peu réactualisé le terme parce que, en fait, c'est l'aura. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre aura, toute notre histoire est inscrite. C'est-à-dire notre expérience, nos peurs, nos victoires, tout ce qui fait notre vie, ce qui fait notre passé, ce qui fait notre expérience. Et notre subconscient décode le site internet subliminal de la personne d'en face. C'est là qu'intervient l'intuition, c'est-à-dire que le subconscient va valider si la personne d'en face est en phase avec nos valeurs ou non. Et s'il y a quelque chose qui accroche dans ce site internet subliminal, notre subconscient va nous envoyer un inconfort. Donc tu sais, tu as déjà entendu ça, on est face à quelqu'un, puis on ne sait pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui passe pas. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, Sophie?
Ah oui, tout à fait, bien sûr.
Et est-ce que tu savais à quoi l'attribuer?
Non.
C'est fou, hein?
Tout compte,
bon, il y a des choses...
Après, en rationalisant, je pourrais sans doute trouver des explications, mais au départ, j'ai l'information brute, sans aucun décryptage, si je puis dire.
Exact. C'est parce que ben il y a soit quelque chose, quand c'est raisonné, raisonnable, il y a soit quelque chose chez l'autre personne que tu détestes chez toi, mais que tu ne vois pas chez toi, mais que tu vas t'amuser à détester chez l'autre, c'est bien pratique. Il y a aussi quelque chose que tu envies chez l'autre. Ça arrive très souvent avec la confiance. C'est amusant parce que tu sais que quand tu es face à une personne qui a confiance en elle, je ne dirais pas une grande confiance parce que je trouve pas qu'il y a des petites ou des grandes confiances. Une personne qui est confiante, si toi tu manques de confiance en toi, tu vas te sentir écrasé. Donc tu vas envier cette confiance-là et du coup tu vas avoir tendance à être réticente par rapport à cette personne parce qu'elle a ce que tu n'as pas. Et puis, il y a effectivement, ce qui n'est pas raisonné ni raisonnable, c'est que quelque chose ne passe pas et tu n'es pas capable d'identifier ce que c'est. Eh bien, c'est exactement à ce moment-là qu'intervient le subconscient en te disant, attention, il y a quelque chose qui n'est pas en phase avec tes propres valeurs chez la personne d'en face. Et je le vois souvent en relation affective, combien de personnes m'ont dit, dès le début je sentais qu'il y avait quelque chose qui passait pas, mais comme on est en dépendance, il faut absolument que la relation fonctionne, donc on se lance dans cette relation-là à corps et à cœur perdu, et du coup on ferme les yeux et on ne cherche pas à écouter son intuition. Parce que tu as raison, Sophie, c'est effectivement ce que l'on nomme l'intuition, qui est en train de te dire, donc ce que j'appelle le subconscient, qui est en train de te dire, attention, il y a un piège. Si on revient sur la confiance, d'où vient cette confiance? Est-ce que tu le sais? Pourquoi des personnes ont une grande confiance en elles et d'autres pas du tout?
Non, pas particulièrement.
Eh bien, ça vient de l'enfance. En fait, ce sont nos parents qui sont censés développer notre confiance et notre estime en nous donnant de la reconnaissance, de l'affection et de la protection. Si on reçoit cela dans notre enfance, on grandit en ayant le message « je me reconnais, donc j'existe puisque mes parents me reconnaissent ». On a le message ensuite « eh bien, tu es aimable et estimable puisque nous t'aimons », c'est l'affection. Et le prendre soin de soi, c'est la protection. Donc du coup, adulte, nous savons que nous existons, nous savons que nous sommes aimables et estimables et nous prenons soin de nous. Du coup, la confiance et l'estime, ça vient avec l'expérience. C'est-à-dire que plus tu as d'expérience, plus tu as de confiance, plus tu as de victoire, plus tu as de confiance, plus tu as d'expérience, plus tu as de victoire. Et la confiance se muscle. Pour certains d'entre nous, nous avons eu des parents un petit peu défaillants, et je ne suis pas du tout là pour les juger, bien au contraire. Cela dit, ils n'ont pas été capables de nous transmettre ce qu'ils n'ont pas reçu. Donc, ils ont un petit peu zappé, je dirais, tout ce qui est reconnaissance, affection et protection. Du coup, eh bien, notre croissance psychologique ne se fait pas. C'est-à-dire que le corps grandit, mais on reste un enfant dans certaines proportions ou dans certaines parties de notre vie. C'est ce que j'appelle l'enfant intérieur, enfin ce que nous appelons l'enfant intérieur. C'est-à-dire que notre corps grandit, on a certaines qualités, par exemple professionnelles, dans lesquelles on va être parfaitement adulte, et on va agir en adulte, et avec un stimulus externe, ce qui va se produire, c'est qu'on va se retrouver dans nos chaussures d'enfant, et on va agir comme un enfant. Donc l'enfant intérieur, c'est celui qui prend les commandes quand on a peur ou quand des stimuli externes nous renvoient dans nos chaussures d'enfant, on va avoir des comportements d'enfant alors qu'on est parfaitement adulte. Et on va assister à une dualité adulte-enfant. Donc je le redis, dans votre vie professionnelle, il se peut que vous soyez parfaitement adulte, capable de prendre des décisions, sachant exactement où vous en allez. Et puis soudain, dans votre vie privée, vous dérapez. Ça peut être avec les amis, ça peut être avec les conjoints que vous souhaitez recruter, entre guillemets. Eh bien, vous allez avoir des réactions complètement opposées. Et c'est très déstabilisant parce que j'ai des clients qui me disent « j'ai l'impression qu'on est deux à l'intérieur de ce corps ». Ben, effectivement, d'une certaine façon, oui, vous êtes deux. C'est-à-dire, votre côté adulte et votre côté enfant. Est-ce que tu sais faire la différence entre ce que je nomme les dominateurs dominés et les dominants, ma chère Sophie?
J'ai vraiment l'air d'être une grosse nulle, là.
Pas du tout.
Parce
pas
que
du tout,
non, Sophie. Les dominateurs et les... Enfin, je me doute, enfin, j'ai une idée a priori, mais je me dis que ça doit être un peu plus élaboré que ça, ce que tu veux évoquer.
En fait, Sophie, ce que je suis en train de t'expliquer va peut-être ébouriffer les personnes qui nous écouteront, mais c'est du Pascal Piquet, en fait. C'est moi qui ai déterminé deux mondes différents, c'est-à-dire un monde où on a affaire à des gens qui, sur une échelle de 1 à plus de 10, manquent de confiance en eux. Et ce sont ces gens-là qui sont des dominés ou des dominateurs. C'est-à-dire que dans ce monde-là, les gens ont peur. Donc, par peur, ils vont soit dominer, soit se laisser dominer, et parfois alterner. C'est-à-dire que quand un dominateur sent qu'il peut te dominer, il va t'écraser. S'il sent qu'il ne pourra pas, il va se laisser écraser. Et de l'autre côté, il y a ce que j'appelle les dominants. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ne dominent personne et qui ne se laissent dominer par personne. Pourquoi ? Parce qu'ils ont confiance. Donc les dominateurs et les dominés ont peur, et les dominants ont confiance. Ce qui fait que quand tu es face à quelqu'un, tout de suite, ce qui va s'installer, c'est une sorte de comme un bras de fer. Si tu tombes sur un dominateur, son premier réflexe, ça va être de se demander s'il est capable de te dominer ou non. Et à partir de là, il va s'en suivre des relations qui seront établies sur ce registre de dominateur-dominé. Je voudrais te raconter une métaphore que j'utilise beaucoup, qui est la métaphore du boa. Et c'est une histoire vraie dans son ensemble. C'est une femme qui avait acheté un boa, donc un boa qui devait mesurer 1 mètre. Et passionnée par les serpents, elle l'a nourri pendant de nombreuses années. Et la particularité, c'est qu'il dormait dans son lit. Donc, c'est assez particulier, mais c'est comme ça, chacun ses goûts. Donc, il dormait dans son lit sous ses draps lovés bien au chaud contre elle. Cela a duré de nombreuses années, le boa a grandi, puis un jour, il a changé de comportement. C'est-à-dire qu'il ne mangeait plus, et il ne dormait plus du tout lové sous les couvertures, mais le long de son corps. Alertée par ce changement de comportement, la dame va voir un vétérinaire et lui pose la question « Que se passe-t-il avec mon boa ?» Et le vétérinaire lui répond « Madame, dépêchez-vous de vous en débarrasser, il est en train de vous mesurer pour vous bouffer. » Donc ce que ça signifie, c'est que dans le cas du boa qui a un cerveau reptilien, il ne fait absolument pas la relation entre la dame et la nourriture. Pour lui, depuis le début, elle est de la nourriture sur patte. Il attend juste d'être assez grand pour la bouffer. Et devine ce qui se passe avec les enfants.
Je vais pas me dire que c'est la même chose.
Définitivement. Qu'est-ce qu'ils font les enfants? Si tu leur donnes pas une marge de manœuvre qu'ils doivent respecter, ben en grandissant, quand ils sentent qu'ils peuvent te bouffer, ben ils vont te bouffer. Et c'est pareil avec les relations d'affaires, et c'est pareil avec les conjoints. Ce qui se produit avec les conjoints, c'est que quand on est dans ce monde de dominateurs et de dominés, c'est vrai qu'il y en a toujours un qui domine. C'est faux dans le monde des gens qui sont des dominants, c'est-à-dire qui ne dominent personne, qui ne se laissent pas dominer. Donc automatiquement, la personne qui est en face de toi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle te mesure pour savoir si elle peut te bouffer ou s'il va falloir qu'elle recule parce qu'elle n'en sera pas capable, t'es plus puissant ou puissante qu'elle. Donc c'est pareil en affaires. Si on tombe sur des gens qui sont des dominateurs, ben on va rentrer dans ce système-là. Si on tombe sur des gens qui sont des dominants, as-tu une petite idée, ma chère Sophie, de ce que font deux dominants qui se rencontrent? On s'entend que des gens qui sont dominateurs, dominés, quand ils se rencontrent, ils se mesurent pour savoir qui va bouffer qui. Mais deux dominants, qu'est-ce qu'ils font? Bien, eux, ils vont plutôt se syntoniser. Ils vont regarder s'ils sont sur la même longueur d'onde avec absolument aucune intention de bouffer personne. Eux, ça va être simplement, je vais me syntoniser. Est-ce que nous sommes sur la même longueur d'onde? Oui ou non? C'est aussi simple que ça. Mais il n'y aura pas de combat où il y en aura un qui va perdre et un qui va gagner. C'est ce que l'on appelle les relations gagnant-gagnant.
D'accord.
Donc c'est après, c'est aussi simple, hein, mais tout ce monde de dominateurs, dominés, dominants, C'est vraiment du Pascal Piquet, si tu veux. Ce sont des métaphores pour bien expliquer comment ça fonctionne, que ce soit en vie privée, que ce soit en vie professionnelle. Vie privée, c'est aussi les amis. C'est vraiment comme ça que vont s'installer les relations. C'est est-ce que je vais me faire bouffer, est-ce que je vais bouffer l'autre, ou quand on veut pas du tout appartenir à ce monde-là, c'est moi je ne veux que des relations épanouissantes avec des gens, des relations positives, où personne ne bouffe personne. Et quand tu as confiance en toi, ben, tu n'es pas méfiante, tu es prudente. Tu vois la différence ?
Oui,
c'est-à-dire que c'est comme en Amérique du Nord, tout le monde est innocent jusqu'à ce qu'on démontre qu'ils sont coupables, alors que pour certaines personnes, t'es coupable jusqu'à ce que tu démontres que t'es innocent. Donc ça relève vraiment de la confiance et de l'estime que d'être capable d'être face à quelqu'un et d'être ouvert à cette personne. En même temps, être ouvert aussi à ce que l'on voit et à ce que l'on entend. Parce que c'est important, hein. Les gens, quand ils te parlent, ils te donnent énormément d'informations par rapport aux mots qu'ils vont employer. Ils vont te raconter involontairement comment se sont passées leurs relations précédentes, que ce soit professionnelles ou que ce soit en amour, parce que, par exemple, une personne qui te dit « Moi, un de mes critères, c'est la fidélité. » Qu'est-ce que ça te dit de son passé ? Ça te dit qu'elle a vécu de l'infidélité. Ou quelqu'un en affaire qui va dire « Moi, pour moi, ce qui est important, c'est que je travaille avec des gens qui sont honnêtes parce que ça m'a porté préjudice dans le passé. » Donc, on sait qu'il y a déjà des blessures. On sait que cette personne en affaire est devenue méfiante. Et du coup, ça va être un petit peu plus serré, je dirais, d'établir une relation d'affaire avec cette personne parce que elle t'a déjà dans le collimateur et elle pense déjà que tu vas l'arnaquer. Donc tu vois l'importance de se syntoniser, quand on est entre personnes qui ont confiance et qui se syntonisent, on va trouver ce que j'appelle la zone de confort. Malheureusement, quand on est dans un monde de dominateurs et de dominés, on va tomber dans ce que j'appelle les SCC, c'est-à-dire les sacrifices, les concessions et les compromis. Est-ce que pour toi, c'est un bon terrain d'entente que de faire des sacrifices, des concessions et des compromis, ma chère Sophie ?
Des sacrifices, certainement pas. Des concessions, ben quand même. Je pense que la vie est quand même... La vie en communauté, hein, avec d'autres, implique certaines concessions de part et d'autre. Les compromis, ou... Enfin, je vois pas bien la distinction entre concessions et compromis.
Mais c'est parce que, en fait, c'est bonnet blanc et blanc bonnet, qu'est-ce que t'en penses ?
Entre concession et compromis, oui, j'ai un peu l'impression que c'est la même chose, oui.
Oui, complètement. La seule chose que je veux souligner dans ces termes-là, c'est que si on veut une relation gagnant-gagnant, c'est ni à travers un sacrifice, une concession ou un compromis qu'on va s'en sortir, c'est dans une zone de confort. Quand on a un contrat, quand on établit un contrat entre deux parties, eh bien, normalement, il faut que ce contrat satisfasse les deux parties. S'il y en a un qui n'est pas satisfait mais qui ne le dit pas, on se retrouve dans une relation gagnant-perdant. Encore une fois, ça rebondit sur la confiance. Est-ce que j'ai assez confiance en moi pour dire que cette part du contrat ne me correspond pas ? Si les deux personnes ont confiance en elles et en l'autre, elles vont établir un contrat qui sera véritablement une relation gagnant-gagnant. Et ça, c'est le secret d'une relation épanouissante, que ce soit en vie privée, en vie professionnelle ou en vie sociale. C'est que on sache se dire exactement ce qui nous convient. Et effectivement, il n'y a pas de concession à faire, parce que le côté concession, il y a un petit côté, c'est de la rhétorique, mais il y a un petit côté où je suis pas à l'aise avec ça, mais bon, je vais le faire quand même. Alors que si on est capable de se parler suffisamment, et évidemment ça repose sur la communication, si on est capable de se parler suffisamment pour trouver ce que j'appelle la zone de confort, on s'entend qu'on part sur des bases qui sont extrêmement saines. Maintenant, quand je dis que 98% de la population sur une échelle de 1 à plus de 10 souffre d'un manque de confiance et d'estime, c'est sûr que tout le monde me dit, mais bon sang, comment on va faire pour trouver le 2% restant avec qui on va bien s'entendre ? Eh bien, tu le sais, et je suis sûre que tout le monde le sait, on attire ce que l'on est. Ça, c'est la loi de l'attraction, c'est pas moi qui l'ai inventée. Donc, si tu es confiante, si tu es ouverte, si tu sais vers où tu veux te diriger, il y a de fortes chances que tu attires des gens qui vont être comme toi. et que ce soit des partenaires d'affaires, que ce soit des fournisseurs et même des clients. C'est sûr qu'au début, on va prendre tous les clients. Moi-même, dans ma pratique, je prenais tout le monde parce que j'avais besoin de me faire les dents un petit peu, puis d'acquérir de l'expérience. Mais avec le recul, maintenant, je choisis mes clients. En fait, je me syntonise avec eux pour voir si on est sur la même longueur d'onde, parce que là, je sais qu'on fera un très bon travail. Quand on est face à quelqu'un qui est un grincheux ou tu sens bien que même si tu te plies en quatre pour cette personne-là, elle sera toujours insatisfaite. Bien, il y a de fortes chances que quoi que tu fasses, elle te critique. Donc c'est pour ça que c'est très important de savoir à qui on a affaire et surtout quand votre petite voix ou votre intuition vous dit « Hop, il y a un voyant lumineux rouge qui clignote parce qu'il y a quelque chose qui accroche », ben, ce serait une bonne idée de vous écouter. Évidemment, vous allez me dire, en affaires, parfois, ben, on prend quand même des gens avec lesquels on n'est pas forcément à l'aise. Mais dans l'idéal, on s'entend, Sophie, qu'on parle dans l'idéal. Mm-hmm. Dans l'idéal, ben, c'est d'avoir des partenaires d'affaires ou des clients ou des fournisseurs ou un conjoint, une conjointe avec lequel eh bien, on a vraiment un terrain très stable et une entente et une communication. Quand on croise quelqu'un, donc on a ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on ressent. Après ça, ce qui est bien pour se syntoniser un petit peu plus, c'est de parler de nos croyances et de nos valeurs. Ça, c'est quelque chose de très important. Puisque deux personnes qui n'ont pas les mêmes croyances et les mêmes valeurs, c'est très difficile de s'entendre. Surtout au niveau des valeurs, parce que si vous tombez sur quelqu'un pour qui mentir, escroquer, ça fait partie de la vie. Si vous, ça fait pas partie du tout de la vôtre, vous savez que vous allez au-devant d'ennuis. Donc c'est vraiment important de se parler pour voir si on a la même vision de l'entreprise, la même philosophie en affaires, et surtout aussi quand vous êtes dans le choix d'un partenaire de vie. Si vous n'avez pas les mêmes croyances et les mêmes valeurs, ça devient compliqué. Par exemple, si l'un croit en Dieu et pas l'autre, ça peut créer quelques petites frictions. Si l'un veut des enfants et pas l'autre, vous savez que vous allez au-devant d'ennuis. Mais ça, pour ce qui est de comment se syntoniser en posant des questions, Sophie, si tu me le permets, à la fin, j'aimerais faire un petit exercice avec ceux qui nous écoutent, justement par rapport aux 5 questions qu'il faut poser.
Parfait.
Je te demanderai de m'arrêter parce que tu sais, je suis conférencière, donc pipelette. Arrête-moi un petit peu avant pour qu'on ait le temps de travailler sur ces exercices-là. Mais vous allez comprendre et découvrir que ces 5 questions-là sont très importantes. Elles sont très simples et elles vous permettent de scanner la personne pour savoir si vous êtes sur la même longueur d'onde. Tout à l'heure, tu parlais de dépendance affective. Oui, c'est ma spécialité, c'est le manque de confiance et d'estime. Qu'est-ce qui se produit quand on souffre de ce déséquilibre-là? Eh bien, on va avoir 2 stratégies de survie différentes. L'une des stratégies, c'est de tout donner par carence affective, par manque de reconnaissance, d'affection et de protection dans l'enfance. Adulte, on va se mettre à tout donner dans l'espoir d'acheter l'autre. Et la deuxième stratégie, c'est de tout prendre. Donc, le premier, celui qui donne tout, je l'ai appelé le desperado, parce qu'il donne désespérément dans l'objectif d'atteindre désespérément ce qu'il n'obtiendra désespérément pas ou très peu. Et face à lui, il a le trou noir affectif, comme les trous noirs dans l'espace, qui gobe tout. Tu sais que quand tu rentres dans le champ gravitationnel d'un trou noir, tu es gobé instantanément. Donc, j'ai appelé ceux qui prennent tout les trous noirs affectifs, parce que eux vont être face à un desperado qui va tout donner et eux vont tout gober. Eh bien, c'est exactement la dynamique qui se produit en couple. Dans un couple en déséquilibre affectif, donc quand il y en a un qui domine, alors que je vous rappelle que chez les gens équilibrés, aucun des deux ne domine, ce sont deux partenaires de vie. Donc, cette dynamique-là va se reproduire en affaires aussi, c'est-à-dire qu'il y en a un qui va essayer de tout prendre, et un autre qui peut être dans cette éventualité de tout donner, parce qu'il veut acheter l'autre. Donc ça aussi, c'est important de comprendre. Est-ce que j'ai affaire à un desperado, ou est-ce que j'ai affaire à un trou noir affectif? Un desperado en affaires, il va tellement donner à ses clients que ça va en devenir fou parce qu'il va s'épuiser, il va même finir par y perdre ses bénéfices parce que s'il passe trop de temps avec un client alors qu'il pouvait lui rendre un service dans des proportions tout à fait normales, s'il passe 3 fois plus de temps tellement il a besoin de reconnaissance, eh bien il va finir par aller vers la faillite. c'est le besoin de reconnaissance qui fait marcher les êtres humains quand ils sont en déséquilibre affectif. Dans toutes les sphères de votre vie, que ce soit la vie professionnelle, privée ou sociale, c'est ce besoin de reconnaissance. Souvent, on pense qu'on a besoin d'affection, mais c'est pas l'affection qui vous fait courir après les autres, c'est ce besoin de reconnaissance. Pourquoi ? Parce que l'affection, si je te touche, eh bien, ça démontre que je te reconnais. Donc, du coup, on se méprend en pensant qu'on a besoin d'affection. Fondamentalement, on veut être reconnu. Donc, si vous souhaitez être reconnu dans une vie professionnelle ou dans une vie sociale ou dans une vie privée, c'est certain que vous allez tout donner. Mais c'est pas du tout comme ça que l'on fonctionne quand on veut une relation équilibrée et équitable. Parce que si vous donnez tout, vous vous mettez au service des autres. C'est la différence entre être au service d'eux et rendre service. Être au service d'eux. Bien sûr, dans un environnement professionnel, je comprends, vous allez me dire, je rends un service à mon client. Oui. On peut dire aussi qu'on est au service du client. D'accord. Mais on va quand même faire une distinction, ma chère Sophie, entre être au service d'eux et rendre service. Être au service d'eux, c'est être esclave des autres et c'est générer du mépris. Alors que rendre service, c'est générer du respect et c'est être maître de son destin. Si vous rentrez dans une pièce et qu'une personne qui vous accueille un client. Et cette personne, vous lui demandez est-ce que vous voulez un verre d'eau, est-ce que vous voulez un café, la personne décline, est-ce que vous avez chaud, est-ce que vous avez froid, est-ce qu'il y a trop de lumière, la personne va très gentiment vous dire, écoute Sophie, quand j'aurai besoin de quelque chose, je vous le dirai, pour l'instant tout va bien, et vous surenchérissez en continuant tellement dévoué et tellement engagé dans le fait que cette personne soit bien dans votre bureau, bien vous allez continuer. Vous êtes sûr que vous voulez pas un verre d'eau? Vous êtes sûr que vous voulez pas un café? Est-ce qu'il n'y a pas trop de chauffage ou trop de lumière? Est-ce que je baisse le store? Au bout de combien de temps une personne comme ça vous agace? Toi-même, Sophie, au bout de combien de temps tu es agacée par quelqu'un qui s'obstine à...
J'ai pas chronométré, mais c'est clair que ça va vite. Ça va assez vite. Hein.
Ça va vite, et pourtant, cette personne est pétrie de bonnes intentions, puis vous êtes une personne tout à fait correcte et tout à fait aimable, sauf qu'elle va vous agacer. Donc, quand on se met au service d'eux, c'est-à-dire qu'on se soumet, on finit par agacer l'autre et on finit par générer du mépris. Donc, on retombe sur cette formule-là. Dans la vie, il faut se respecter tout simplement et respecter les autres. À partir de là, quand on a établi une relation où on sent bien qu'on est sur le même plan, on est au même niveau, eh bien il faut se méfier des imitations. Il y a ce que j'appelle les polymorphes ou ce que j'appelle aussi les pochettes surprises. C'est-à-dire que tu vas valider avec la personne que tu as les mêmes croyances et les mêmes valeurs. Et elle va te dire oui. Là, je te propose de valider si ton subconscient n'est pas en train de te mettre dans un petit inconfort, parce que cette personne a beau te dire qu'elle est d'accord avec tout ce que tu dis, peut-être que tu sens, toi, qu'il y a quelque chose qui accroche. Mais bon, est-ce que tu vas t'écouter ? Ça, moi, je vous conseille de vous écouter quand quelque chose accroche, parce que si cette personne est malhonnête et que votre subconscient est en train de le détecter, il va vous mettre dans l'inconfort. Vous allez sentir un inconfort dans votre corps. Ça peut se manifester de diverses façons, mais vous allez sentir que quelque chose ne passe pas. Ce que j'appelle les polymorphes, ce sont ceux qui sont des séducteurs, en fait, et qui veulent absolument obtenir quelque chose de vous, et qui vont être en accord avec tout ce que vous avez dit. Bien, j'appelle ça aussi les pochettes surprises, surtout dans la vie privée, c'est-à-dire que vous tombez sur une personne à laquelle vous exprimez tous vos critères et elle est d'accord sur tout, elle veut absolument soit fusionner avec vous et c'est vous qui aurez le contrôle et elle fera tout ce que vous lui demandez, soit elle a bien l'intention de vous bouffer parce que c'est un dominateur ou une dominatrice qui vous fait croire que elle est d'accord ou il est d'accord avec tout sur tous les plans, et à un moment donné, quand vous serez piégé, cette personne-là reprendra le dessus. Tu sais, pour moi, quelles que soient les relations, que ce soit une relation d'amitié, d'amour ou professionnelle, je vois les choses comme un tableau de bord d'avion. Imaginez que vous avez un tableau de bord d'avion et que vous regardez si il n'y a aucun lumineux rouge, voyant lumineux rouge qui clignote pour décoller, ou parfois il y en a. Quand il y a un voyant lumineux rouge qui clignote, on s'entend qu'il n'y a aucun pilote sur cette planète qui ne décollerait avec un voyant lumineux rouge qui clignote. Parce que ça signifie qu'il y a un problème dans le moteur. Or, nous, parfois, nous voyons des voyants clignoter, mais nous décollons quand même. Je vais te raconter une anecdote personnelle que je raconte dans Le syndrome de Tarzan, mon premier livre. Eh bien, figure-toi que je savais qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas chez le premier conjoint que j'ai épousé. Donc, mon tableau de bord, c'était plus un tableau de bord, c'était un sapin de Noël. Mais moi, je pensais que j'allais pouvoir le sauver, cet homme-là. Que fait le desperado ? Effectivement, il pense qu'il peut sauver l'autre. Et c'est là qu'on se trompe. On ne peut sauver personne et on est responsable de personne, à aucun niveau. Donc, si, en relation d'affaires, votre tableau de bord d'avion clignote, il va falloir vous assurer que c'est quelque chose d'anodin ou valider si c'est quelque chose de grave. Et c'est votre subconscient qui va se rendre compte si la personne d'en face n'est pas honnête. C'est donc l'intuition à laquelle tu faisais référence en début de conversation, Sophie. C'est effectivement ce voyant lumineux rouge qui clignote, c'est un inconfort. Peut-être que vous allez mettre le doigt dessus et savoir d'où vient cet inconfort, ou peut-être que non. Et parfois, on n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Qu'est-ce que tu ferais dans un cas comme celui-là si tu n'arrives pas à mettre le doigt dessus, Sophie ?
Tu me prends de court.
Mais je le sais, je te taquine parce que je sais que les gens n'ont pas la réponse parce que je les emmène dans un domaine où on ne sait pas poser toutes ces questions. En fait, on vit des relations humaines sans en comprendre les règles. Et c'est vraiment l'objet de mon deuxième livre, Gagner au jeu des échecs amoureux. C'est juste de comprendre les comportements humains pour pouvoir gagner, si je puis dire. Parce que sinon, on se fait avoir de tous bords, tous côtés. Donc c'est vraiment important de réaliser le mécanisme qui se produit quand on rencontre quelqu'un, quel que soit le niveau auquel on le rencontre, parce qu'il y a toutes sortes d'enjeux qui sont là, qui sont présents, et si on ne les décode pas, bien on est la proie de prédateurs, parce que, comme tu peux l'imaginer, les dominateurs sont des prédateurs. Ce sont eux qui vont te faire croire qu'ils sont d'accord en tout point sur ce que tu as évoqué, et puis au premier tournant, ils vont te sauter dessus et te bouffer. C'est vraiment important de s'écouter. Et ça repose aussi sur l'expérience. En affaires, c'est vrai que quand on a côtoyé plusieurs personnes, plusieurs clients, plusieurs fournisseurs, on commence à établir un portrait robot de l'arnaqueur, je dirais. Donc on commence à les renifler. Alors, encore une fois, il y a les choses que l'on voit, que l'on entend, et puis il y a ce que l'on sent, et c'est ce que votre intuition va vous dire. C'est vrai que c'est important de se rejoindre par même système de croyances et de valeurs. Est-ce que tu connais l'homogamie, ma chère Sophie ? L'homogamie, je l'ai découvert très récemment. L'homogamie, je vais te livrer la définition que j'ai prise sur Wikipédia pour être claire. L'homogamie, c'est le fait de rechercher un conjoint dans un groupe social auquel on appartient, c'est-à-dire un conjoint dont le niveau social est équivalent au sien. Donc, c'est vrai que c'est plus facile de s'entendre avec quelqu'un qui parle la même langue, qui a les mêmes croyances, les mêmes valeurs, qui a le même niveau social. Je sais que souvent on entend dire que l'amour arrange tout et que on tombe dans le romantisme et que on peut avoir deux personnes de niveaux sociaux complètement opposés et que ça devrait marcher. Mais tu sais quoi ? Moi j'y crois pas. Je ne crois pas du tout, même si c'est des beaux contes de fées, qu'un prince peut épouser une bergère ou qu'une princesse épousera un berger. Alors je sens qu'il y a des gens qui ont les cheveux droits sur la tête. Je vais vous poser une simple question. Vous êtes un homme ou une femme et vous êtes célibataire, vous tombez sur un prince ou une princesse d'un des pays où la royauté est encore en vigueur. Est-ce que vous avez vraiment envie de passer votre journée dans des protocoles à n'en plus finir, d'avoir 12 couverts à droite et à gauche et de ne plus savoir lequel il faut utiliser, d'être toujours tiré à quatre épingles, d'être toujours convenable, d'être toujours sous le feu des paparazzi ou des caméras, est-ce qu'on s'entend ? Toi-même, Sophie, est-ce que ça te tenterait comme vie ?
Non, je crois pas.
On s'entend qu'il faut être né là-dedans. Parce que sinon, ça fait pas du tout partie de ton monde. J'avais une cliente qui avait entamé une relation avec un homme très médiatisé. Et je lui ai simplement demandé quelle était sa vision du couple. Et elle, elle voulait que son mari soit là le soir à l'heure régulière, on va dire, pour élever leurs futurs enfants. Et je lui ai juste fait remarquer que cet homme-là ne serait pas là le soir parce que très médiatisé, parce que courant les inaugurations, les émissions de télé, les émissions de radio et j'en passe, toutes ces activités mondaines auxquelles il était soumise, Eh bien, elle a compris que cet homme-là ne serait jamais le soir chez elle à l'heure pour élever les enfants. Donc elle a renoncé à cette relation. C'est très important d'être sur le même, la même longueur d'onde. Même la langue, parfois, ça peut être une difficulté, tu sais. Quand les deux ne parlent pas la même langue...
Oui, j'imagine.
Derrière chaque mot, il y a des perceptions. Et si on n'a pas les mêmes perceptions derrière chaque mot, c'est très compliqué de se comprendre et de se rejoindre. Donc, maintenant, je vous repose la question, les amis. Est-ce que vous pensez que les princesses épousent les bergers, puis les bergères épousent les princes? Je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai été courtisée par, dans mon petit village de Saint-Jean-de-Mata de 2500 habitants, par le ferrailleur du coin. Mais le ferrailleur du coin a 10 ans de moins que moi. Ça, j'ai déjà eu de mauvaises expériences avec des hommes plus jeunes que moi. Donc, mon docteur m'a dit d'arrêter les petits jeunes. J'en veux un de mon âge maintenant. Il a 10 ans de moins que moi. On n'est pas du tout rendu au même endroit. Et il a un vocabulaire qui ne correspond pas au mien. Et l'éducation ne correspond pas à la mienne non plus. Je lui ai simplement dit, si je te prenais comme conjoint, il faudrait que je te change ta garde-robe, ton vocabulaire et tes comportements. À la finale, tu ne te reconnaîtrais plus. Est-ce que c'était une bonne idée d'engager quand même cette relation? Bien sûr que non. En tout cas, à mes yeux, c'était pas une bonne idée. Ce que je veux, moi, c'est quelqu'un qui est comme moi, c'est-à-dire la même liberté, la même ouverture d'esprit, la même joie de vivre. Si l'on s'acoquine à quelqu'un qui est l'opposé, c'est là que les difficultés se posent. Tu l'as déjà entendu, Sophie, que les extrêmes s'attirent?
Oui.
Est-ce que tu y crois?
Non, mais en même temps, enfin, vu ce que tu viens de dire, non, j'ai envie de dire non, mais pourtant, dans un couple, on voit bien qu'ils sont pas tous les deux, ils sont rarement identiques.
Oui, et tu sais pourquoi? C'est simplement parce que on va encore faire une scission entre le monde des gens dominants et le monde des dominateurs et des dominés. Mm-hmm. Quand tout à l'heure je parlais de l'enfant intérieur, cet enfant qui a peur, qui représente les peurs, qui représente la croissance affective qui ne s'est pas faite, eh bien, le problème c'est que tu attires ce que tu es. Donc si tu es resté un enfant à l'intérieur de toi, tu vas attirer une autre personne qui reste un enfant à l'intérieur d'elle. Et du coup, c'est pas du tout les critères qui vont et l'équilibre qui vont faire que les gens vont se rejoindre et ça coquiner, je dirais. C'est la névrose. La névrose, c'est un trouble du comportement. Le déséquilibre affectif est un trouble du comportement. Donc les gens vont s'attirer à cause de ces enfants intérieurs. Et malheureusement, on va se retrouver avec des couples complètement opposés. C'est-à-dire une personne extravertie avec une personne introvertie, une personne économe avec une personne dépensière, une personne fidèle avec une personne infidèle. Pourquoi ? Parce que ce ne sont pas du tout les critères qui vont faire que ces deux personnes vont se mettre en couple, mais plutôt le déséquilibre affectif. Et ils vont être au même niveau de déséquilibre. C'est ce qui va faire qu'ils vont s'attirer. Parce que si vous tombez sur une personne plus déséquilibrée ou moins déséquilibrée que vous, vous n'en voulez pas. Et évidemment, si vous tombez en déséquilibre affectif vous-même sur une personne équilibrée, vous n'en voulez pas non plus. Pourquoi ? Parce qu'elle ne correspond pas, malheureusement, votre déséquilibre. Donc c'est ainsi qu'on va s'attirer, c'est-à-dire les gens équilibrés vont attirer des gens équilibrés, les gens en déséquilibre affectif vont attirer les gens en déséquilibre affectif. Et tu sais, en fait, ce que j'ai constaté, c'est que ceux que la névrose rapproche, l'équilibre les sépare. C'est-à-dire que quand je fais un coaching de couple, on s'entend que je vais prendre les personnes en individuel. Je ne cherche pas à réparer un couple qui pourrait tout à fait fonctionner. Le couple étant comme un avion qui peut parfaitement décoller. Mais il faut que les deux personnes aient leur brevet de pilote. Donc, ce qui se produit, c'est que je vais prendre chaque personne en individuel. Je vais leur rendre leur autonomie affective et elles feront ce qu'elles veulent après. C'est-à-dire, elles décideront soit de remonter dans le même avion, soit de se séparer. C'est sûr qu'elles vont décider de remonter dans le même avion pour voir si cette relation est viable ou pas. Même si elles ont de fortes présomptions qu'elles ne l'aient plus, mais elles vont quand même essayer, et c'est important d'essayer. Mais elles vont se rendre compte qu'elles sont pas faites pour être ensemble. Et soudain, tu réalises que tu as une personne qui aimait la campagne, qui s'est retrouvée à la ville parce que l'autre aimait la ville. Tu réalises qu'il y en a un qui aimait faire du camping et du vélo tous les week-ends et l'autre déteste ça. Et tu réalises vraiment qu'ils sont opposés, mais que c'était le besoin, c'était la dépendance qui les maintenait attachés l'un à l'autre. Donc, on peut décliner ça à l'infini dans la vie privée, dans la vie sociale et dans la vie professionnelle. C'est-à-dire que c'est pareil en amitié. En amitié, il y a beaucoup de gens qui vont tout donner à leurs amis et qui vont se faire manger le laine sur le dos parce que ils auront tellement peur de ne pas avoir d'amis et tellement peur d'être jugés. Ça aussi, la peur du jugement, ça fait partie des souffrances de l'être humain, je dirais. Ce que j'aimerais expliquer à ceux qui nous écoutent, ceux et celles qui nous écoutent, c'est que, en fait, quand quelqu'un vous juge sévèrement, vous critique, il ne parle pas de vous. Il parle de lui. Écoutez ce que les gens vous disent quand ils profèrent des méchancetés à votre égard. Ils vont parler de leur jalousie, de leur peur et de leur frustration. Quand vous comprenez ce mécanisme, eh bien, comme on dit au Québec, vous ne le prenez plus personnel. C'est-à-dire que quand quelqu'un est agressif vis-à-vis de vous, mais vous entendez que c'est son problème à lui, mais pas le vôtre. On exclut évidemment les critiques constructives, parce que ça, c'est une bénédiction. C'est quelqu'un qui a pris le temps de regarder votre travail et qui vous donne des pistes d'amélioration. Mais quand on est dans les critiques négatives, c'est vrai qu'on a peur de déplaire, c'est vrai qu'on a peur du jugement, c'est vrai qu'on est prêt à tout et n'importe quoi pour plaire aux clients, pour plaire aux partenaires d'affaires, pour plaire aux conjoints, pour plaire aux amis. Mais en fait, est-ce que vraiment c'est efficace? Tu connais Sacha Guitry, ma chère Sophie?
Oui.
Eh bien, il y a une phrase de lui que j'adore, c'est « Vouloir plaire à tout le monde, c'est vouloir plaire à n'importe qui.
»
Donc la question est, voulez-vous plaire à n'importe qui?
Oui.
Moi non, je veux plaire à moi-même et qui même me suivent. Et en fait, c'est exactement ce qu'il faut faire parce que vouloir plaire à tout le monde, c'est se rendre esclave. C'est toute la différence entre être dans le plaisir et dans le besoin. Être dans le plaisir avec un partenaire, eh bien, c'est du bonheur, c'est de la liberté, c'est de l'autonomie. Mais quand on est dans le besoin, eh bien, on est dans la soumission et dans la dépendance. Donc, dès qu'il y a une soumission quelconque, par rapport à un partenaire, on s'entend que, hop, il y en a un qui prend le dessus, il y en a un qui se soumet, on est dans une relation dominateur-dominée, et forcément, il y en a un qui est lésé. Alors que quand on est dans le plaisir, et moi-même, c'est très important que je sois dans le plaisir dans ma carrière professionnelle et dans toutes les sphères de ma vie, quand on est dans le plaisir, eh bien, on est obligatoirement dans des relations gagnant-gagnant. C'est la raison pour laquelle je choisis mes clients en coaching et je choisis les entreprises avec lesquelles je travaille parce que c'est très important pour moi d'être dans le plaisir et d'être sur la même longueur d'onde de façon à pouvoir passer un message qui va correspondre à tout le monde, qui va être en accord, qui va être écologique pour tout le monde. Et comme je te le disais tout à l'heure, eh bien, quand on veut tout faire pour tout le monde et que l'on finit par se rendre esclave de tous les partenaires que l'on peut croiser, eh bien, on se met dans une relation qui est une relation de déséquilibre. Il y a une chose très simple à comprendre. Et moi, je suis nulle en mathématiques, ma chère Sophie, mais alors là, vraiment nulle. Mais il y a une loi que j'ai bien comprise. 1 plus 1 égale 2. Ça paraît simple comme ça, hein?
Bien, bravo.
Ah oui. mais je l'applique. Parce que une personne équilibrée, plus une personne équilibrée, ça fait deux personnes équilibrées, ça fait un couple équilibré.
Mmh.
Une personne positive plus une personne positive, ça fait deux personnes positives, ça fait des partenaires qui sont dans une relation positive. Mais un moins un, ça fait quoi?
Ben zéro.
Et ouais. Une personne positive moins une personne négative, ça fait zéro. Et ça, il faut bien le comprendre. Quel que soit le domaine dans lequel vous cherchez un partenaire, il faut que ce soit un plus un. Moi-même, je me suis fait brûler les ailes, comme ça, ma chère Sophie, pensant que la grande Pascale Piquet était capable de contourner cette règle-là. Ce que j'ai fait, professionnellement, je me suis associée à quelqu'un qui n'a jamais eu la réussite dans les mains, qui est quelqu'un de très gentil, qui est bon dans son domaine, mais qui n'a jamais eu de réussite. Et à 60 ans passés, c'était toujours présent, pas de réussite. Mais je me suis dit, moi, la grande Pascale Piquet, le bulldozer de service, tu vas voir, j'ai la réussite dans les mains, je vais l'obliger à réussir. Prétentieux, n'est-ce pas? Néanmoins, j'étais persuadée que, en se mettant dans ma roue, il allait réussir. Eh bien, tu sais ce qui s'est passé?
Vous avez échoué tous les deux.
Exactement.
Ah, d'accord.
Parce que il a un vrai problème de gestion, et que moi, j'ai bien géré ma part, il n'a pas du tout géré la sienne, il nous a fait couler tous les deux. Alors, quand on revient au début, quand tu as introduit notre discussion d'aujourd'hui, quand tu as introduit le fait que comment peut-on choisir nos partenaires? Est-ce que c'est un jeu de stratégie? Est-ce que c'est un recrutement? Est-ce que c'est un hasard? Eh bien, tu commences à comprendre que ça n'a rien à voir avec le hasard. C'est très important de regarder le CV de la personne. Parce que justement, si tu as affaire à un partenaire d'affaires qui n'arrête pas de couler, ben, y a de fortes chances que ça fasse 1 moins 1 égale 0. Alors que si tu t'associes avec des gens qui ont le succès dans les mains, et il y a de fortes chances pour que tu réussisses avec ces gens-là. Donc c'est vraiment important de comprendre que ce soit en amitié, en amour ou en affaires, c'est très important de regarder le CV. C'est un recrutement. Alors je sais que les grands romantiques ont les cheveux droits sur la tête en disant « c'est pas possible de parler d'amour en termes de recrutement ». Eh bien si, et je vais vous le démontrer. En fait, à la fin de notre entretien, ma chère Sophie, à travers les 5 questions, vous comprendrez pourquoi c'est un recrutement. Mais déjà, si vous avez un poste à pourvoir, vous allez bien regarder le CV de la personne que vous allez choisir. Eh bien, c'est pareil quand vous voulez la personne qui va vous combler sur le plan privé. C'est-à-dire qu'il faut établir le portrait robot de la personne que vous recherchez. Avec beaucoup d'humour, dans mon deuxième livre, Gagner au jeu des échecs amoureux, je le dis, si vous avez un problème de plomberie et que vous avez croisé un électricien que vous trouvez très beau, vous avez beau avoir un coup de foudre avec l'électricien, il va pas réparer votre problème de plomberie. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous ne vous associez qu'avec des gens que vous allez choisir pour des raisons futiles, parce qu'il est beau, parce qu'elle est belle, ou parce qu'il a une bonne tête, ou comme ça, au hasard, il y a de fortes chances que vous alliez à la faillite. Alors que si vous choisissez la personne parce que vous savez exactement qui vous voulez, ça fait toute une différence. Établissez le portrait robot de la personne que vous voulez. Et à partir de là, vous allez croiser des gens qui n'auront pas les critères que vous recherchez. Mais avant ça, surtout en vie privée, il est essentiel de savoir qui vous êtes pour savoir qui vous voulez. En fait, il faut aller chercher la même personne que soi. Alors c'est pour ça que ça m'amuse, dans une conférence, une dame était persuadée qu'il fallait chercher les extrêmes, et elle s'évertuait à chercher les extrêmes. Quand elle a réalisé qu'il fallait aller chercher la même personne que soi, elle a été très soulagée, parce que jusque-là, les extrêmes, ça n'avait pas fonctionné. Donc c'est très important d'aller chercher une personne qui est comme soi, c'est-à-dire, si vous avez confiance en vous, prenez un partenaire qui a confiance en lui ou en elle, quelqu'un qui a des habiletés. En même temps, il faut être complémentaire, c'est-à-dire que peut-être que cette personne est bonne en marketing et vous serez bon en finance. C'est bien d'avoir des complémentarités, mais sur le tronc commun, les dénominateurs communs doivent être vraiment très présents, parce que c'est comme ça qu'on va construire une relation qui va être très stable.
Oui. Donc, est-ce que je peux poser une question? Ça veut dire du coup que si tu manques de confiance en toi, tu dois chercher quelqu'un qui manque aussi de confiance en lui?
Non, tu vas essayer de trouver quelqu'un qui en aura peut-être un peu plus que toi, mais il y a de fortes chances que surtout en vie privée, il n'en ait pas plus que toi. Mais souviens-toi que le dominateur, il n'a pas plus confiance en toi. Il n'a pas plus confiance en lui que tu n'as confiance en toi. Simplement, lui, sa stratégie, c'est de te bouffer. Donc, effectivement, par rapport à la confiance, c'est certain que c'est une règle d'or. Il y a de fortes chances que tu attires des gens qui ont qui sont au même niveau que toi, je dirais, au même niveau de confiance. Parce que si tu as une grande réussite en affaires, ça t'a donné une grande confiance et tu vas aller chercher des gens qui ont une grande confiance aussi. Si jamais tu as une grande confiance en toi, puis tu vas chercher quelqu'un qui, comme moi je l'ai fait, qui a une instabilité professionnelle mais que tu crois que tu vas pouvoir sauver, ben, tu vas couler avec. Après, c'est de la sagesse. C'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui vont répondre « Ah oui, mais moi, je veux aider quelqu'un, si j'ai la réussite, je pense que je vais pouvoir aider quelqu'un d'autre à réussir. » Mais si cette personne n'a pas les qualités ou n'est pas ouverte à l'abondance, il y a de fortes chances qu'elle vous fasse couler aussi. Donc, tu vois que c'est vraiment un recrutement. Il faut regarder le CV. C'est peut-être moins vrai en vie sociale, c'est-à-dire par rapport à des amis. Bon, on va pas forcément être aussi regardant, je dirais, sur son passé. Par rapport à des amis, ça va être plutôt instinctif. On va se rejoindre par même loisir, par secteur d'activité, par croyance et par valeur. Ce sera pas très important la tenue vestimentaire, ce qui sera très important en revanche en partenariat d'affaires ou même en amour. Si vous aimez les hommes qui sont en costume cravate et qu'à votre premier rendez-vous le monsieur se présente en jean et en basket, peut-être que ça peut accrocher, surtout si vous êtes en tailleur et ou en robe du soir. Ça après c'est chacun ira vers ce qui lui convient, mais il faut savoir que le vêtement est un code. À travers le vêtement, on va passer un message. Donc par rapport à nos amis, c'est peut-être moins vrai. Cela dit, ce qui va nous fédérer tous, j'imagine, par rapport à la vie professionnelle, sociale ou privée, c'est qu'on n'ira pas vers quelqu'un qui s'habille vraiment très très mal, qui ne se lave pas et qui se comporte pas bien. J'imagine que on va éliminer cette personne-là.
Mm-hmm.
Mais par rapport à ça, je voudrais évoquer aussi un autre registre. C'est que par rapport aux croyances et aux valeurs, on peut passer pour une personne qui a des tics obsessionnels compulsifs. Je m'explique. Si toi, tu es quelqu'un de très carré, que quand tu établis un contrat, il faut qu'il soit bien écrit, qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe, qu'il soit vraiment très précis, tu peux avoir l'air d'avoir des tics obsessionnels compulsifs pour quelqu'un qui est plus laxiste. Ça aussi, c'est un problème. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être sur la même longueur d'onde à ce sujet. Je vais te raconter une anecdote. Je reçois des clients chez moi, à la campagne. Et il y en a un qui rentre avec ses bottes de neige, ses bottes pleines de neige en plein milieu de la cuisine. Il faut savoir qu'au Québec, on a l'habitude d'enlever nos chaussures. Été comme hiver, la première chose qu'on fait, on enlève nos chaussures quand on rentre chez quelqu'un. Je me retrouve avec ce client au milieu de ma cuisine avec les bottes pleines de neige. Donc je lui fais remarquer qu'il serait bien qu'il enlève ses bottes avant de rentrer dans la cuisine. Il y a de la neige partout. À la suite de quoi, il se sert une tasse de café, il pose sa tasse brûlante sur la table en bois. Je lui fais remarquer que ça brûle le vernis de la table, qu'il faut mettre un dessous de verre sous la tasse brûlante. Arrive le moment de placer la vaisselle dans la vaisselle. Évidemment, il me regarde d'un air goguenard. Il me dit « Oui, je sais. Puis en plus, tu vas me dire que les couteaux, il faut mettre la pointe en bas. » Et je dis « Ben oui. » Pour la pure et simple raison que je ne vois que d'un œil et que je n'ai pas le relief et que j'ai tendance à m'empaler sur les couteaux quand les pointes sont vers le haut. Donc, on s'entend que ce gars-là est reparti de chez moi persuadé que j'avais des tics obsessionnels compulsifs. Alors que la majorité des gens qui viennent chez moi, j'ai pas à leur dire d'enlever leurs bottes quand ils rentrent dans la cuisine, j'ai pas à leur dire de faire attention à ma table en bois, puis j'ai pas à leur dire de mettre les couteaux la pointe vers le bas. Ça aussi, que ce soit au niveau amitié, amour ou affaire, ce sont des choses à valider. Est-ce que vous êtes dans la même rigueur ou dans le même laxisme? Parce que j'ai pas de problème avec les gens laxistes du moment qu'ils sont tous laxistes. Si tu as des gens qui aiment le désordre, il faut qu'ils s'agoquinent avec des gens qui aiment le désordre, parce que si toi-même, sans être vraiment très rigoureuse, tu préfères que ce soit quand même un petit peu rangé, ça va être difficile de vivre dans un désordre jusqu'au plafond. Donc ça aussi, ça fait partie des choses à valider, parce que, bien, encore une fois, on peut avoir l'air d'être obsessif ou obsessive sur des détails et on rebondit bien sûr sur les perfectionnistes. Qu'est-ce qu'on fait quand on tombe sur un perfectionniste? Deux perfectionnistes ensemble, ben, ils vont plutôt s'entendre, mais un perfectionniste avec un laxiste, qu'est-ce que ça va donner? Et c'est vrai à tous les niveaux. Encore une fois, c'est plus souple, je dirais, en amitié, parce qu'on peut être de milieux opposés, on peut être on peut avoir beaucoup de choses qui diffèrent. Tu peux avoir un artiste qui va être ami avec un chef d'entreprise. Il y a beaucoup moins de critères, je dirais. Mais les croyances et les valeurs, c'est quand même le tronc commun dans tous les domaines. Vie privée, vie professionnelle ou vie sociale, les croyances et les valeurs, c'est vraiment important. Parce que c'est le tronc commun. Après, bon, il y a des choses, on le dit souvent, j'imagine que toi aussi, Sophie, tu as des amis, mais tu vivrais pas avec eux.
Ah oui, c'est clair. On dit même parfois que partir en vacances avec des amis, ça peut être la fin de l'amitié.
C'est révélateur, hein. Ah, complètement. Oui, complètement. Donc, c'est vraiment important de valider ces choses-là. Cela dit, tu sais, ma particularité, c'est que mes amis viennent chez moi à la campagne parce que comme je suis très occupée, ma seule façon de les voir, c'est de les inviter chez moi. Et on vit ensemble et de ce côté-là, ça se passe très bien. Mais c'est vrai que partir en vacances avec des amis, ça peut provoquer des clashs. Et pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas sur les mêmes critères. Mais cela dit, tu sais, parfois, on pense qu'on est sur les mêmes critères, mais on peut mettre un terme à une amitié de 20 ans. Pourquoi? Parce que d'un seul coup, l'autre personne commence à déraper. Peut-être parce qu'elle a rencontré quelqu'un qui est toxique pour lui ou pour elle et que finalement cette personne est en train de te couper, son nouveau ou nouvelle conjointe est en train de couper la personne de ses amis. Il peut y avoir toutes sortes de raisons qui vont faire que même au bout de 20 ans d'amitié ou 20 ans de partenariat d'affaires, d'un seul coup, il y a quelque chose qui marche pas. Donc, au-delà de tout ça, C'est, je dirais, à l'usage qu'on se rend compte si ça peut marcher avec la personne. Souviens-toi, si on tombe sur un polymorphe ou une pochette surprise qui te fait croire que il respecte tes croyances et tes valeurs, c'est à l'usage que tu vas te rendre compte que non. Et j'aime rebondir sur ce vieil adage, chasse le naturel, il revient au galop. C'est que la personne, si elle a essayé de te faire croire qu'elle est ce qu'elle n'est pas, tu vas t'en rendre compte assez rapidement. Encore une fois, ce qui est important, c'est de tomber sur des gens qui sont en accord, c'est-à-dire qui sont congruents. Ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent et ce qu'ils font, c'est important que ce soit en accord. Parce qu'il y a les gens qui pensent pas ce qu'ils disent ou qui font pas ce qu'ils disent ou qui t'entraînent dans des faits ce que je dis mais pas ce que je fais. Et là, c'est certain qu'on va au-devant d'ennui. Est-ce que ça te paraît compliqué de respecter ce que j'appelle les consignes de sécurité, Sophie ?
Non. Finalement, ça me paraît assez frappé au coin du bon sens, comme on dit parfois. Mais c'est important de le dire, oui.
C'est parce que jusque-là, que ce soit en amour ou que ce soit en affaires, on a tendance à penser que c'est au gré des vents qu'on va trouver la bonne personne, que finalement c'est une question de chance. Mais ça ne l'est pas, et pas plus en amour, je tiens à le souligner. C'est vraiment une question de recrutement, c'est d'aller chercher le bon partenaire en ayant des critères très spécifiques, en validant que la personne correspond à ces critères. Bien sûr, j'ai pas dit qu'il fallait parfaitement non plus noter le poids et la taille de la personne que vous voulez rencontrer, la couleur de cheveux et la couleur des yeux, c'est pas ça que j'ai dit. Mais il y a trois aspects, si l'on en revient, on s'en remet à l'aspect sentimental, il faut valider trois niveaux, la tête, le cœur et les tripes. Les tripes, c'est l'aspect sexuel, il faut absolument qu'il y ait une attirance sexuelle. La tête, c'est les croyances et les valeurs. Il faut être sur le même registre au niveau des croyances et des valeurs. Et une fois que vous avez validé que croyances, valeurs, vous êtes sur le même registre, qu'il y a une attirance sexuelle et que ça se passe bien sexuellement, c'est important, eh bien, vous pouvez vous laisser aller au sentiment. Donc, c'est vraiment à ces trois niveaux-là qu'il faut se rejoindre pour avoir le plus de chances de former un couple qui va fonctionner. Évidemment, on va exclure l'aspect sexuel en partenariat, je vous le conseille, hein, c'est pas trop bon de mélanger les deux. Sauf que parfois, tu sais, en amitié ou en travail, on tombe sur une personne qui est comme nous, mais comme on veut préserver l'aspect amitié ou l'aspect professionnel, on refuse de lui dire qu'on a des sentiments pour cette personne, et du coup, peut-être qu'on passe à côté du meilleur partenaire pour soi en amour. Qu'est-ce que t'en penses ?
Peut-être, oui. Effectivement, on dit qu'il faut pas mélanger les genres.
C'est peut-être dommage parce que regarde, quand on est ami avec quelqu'un, puis c'est quand une relation commence par l'amitié, qu'on se rend compte qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde, elle peut évoluer vers l'amour. C'est peut-être dommage de passer à côté juste parce qu'on a peur de sacrifier l'amitié. C'est pareil en affaires. Effectivement, on se dit c'est mon partenaire d'affaires, je voudrais pas tout gâcher. Mais si vous validez tout, en fait, si vous respectez les consignes de sécurité, que vous y allez doucement, mais peut-être que ça peut évoluer vers une relation affective parce que bien vous avez validé que ça pouvait tout à fait fonctionner. Et à partir de là, on se retrouve avec une belle relation. Tu sais, en amour, c'est amusant parce qu'il y a une fausse croyance qui dit que l'amour ça dure 7 ans puis après c'est fini, mais c'est archi faux. C'est comme le permis à points, tu sais, ça me fait sourire. C'est comme le permis à points, tu pars avec 12 points et puis au fur et à mesure de la relation, tu perds des points, ou l'autre perd des points et à un moment donné, tu laisses le chauffard t'écraser. C'est pas comme ça que ça doit évoluer. Une relation, quel que soit le domaine, amitié, affaire ou amour, elle évolue, elle se renforce. Donc les points doivent se multiplier, pas se soustraire. Est-ce que tu es d'accord avec ça ?
Oui.
Alors pourquoi la majorité des gens pensent que l'amour, ben, ça ne dure que 7 ans ou au début c'est la passion, puis après ça s'essouffle. Mais pourquoi ? Mais parce qu'on s'est attiré pour de mauvaises raisons. Oui, ça va s'essouffler. Mais si c'est pour de bonnes raisons, ça va se multiplier, ça va se renforcer avec l'historique. Avec les enfants, c'est pareil. Plus nos enfants grandissent, plus on a un historique avec eux, plus l'amour grandit avec eux. C'est pareil avec un conjoint. C'est pareil avec un partenaire d'affaires. Plus on a un historique avec, plus on a confiance en cette personne, plus il y a une osmose qui se crée, et plus on va avoir des relations épanouissantes, même avec des clients. Quand on a une très belle relation avec nos clients, c'est une relation de confiance. Ben, ça va être de très très belles relations qui vont se construire au fur et à mesure, et qui vont se solidifier, se consolider, et ça va être du plaisir. Et on retombe sur ce que je disais au début, on est dans le plaisir, donc du coup, tout le monde est gagnant. Est-ce que ce serait le temps de poser mes 5 questions pour faire l'exercice?
Oui, tout à fait. Quelle remarquable gestion du temps. Oui, c'est tout à fait le moment.
Je me contrôle, si tu vois ce que je veux dire, parce que je pourrais parler pendant 3 jours et 3 nuits.
Mm-hmm.
Donc, l'exercice pratique est très simple. Pour scanner une personne, pour savoir si elle a un problème de déséquilibre affectif, qui va se répercuter dans sa vie professionnelle et dans sa vie sociale et dans sa vie privée, eh bien, c'est de poser une première question qui est quelles ont été les relations avec ses parents. Je sais que ça peut faire bizarre de demander à un partenaire d'affaires comment ça s'est passé avec tes parents, mais je suis sûre qu'au cours de la conversation, vous pouvez le placer. En fait, si la personne a eu de très bonnes relations avec ses parents, très bon point, c'est une bonne chose, ça veut dire qu'elle a développé sa confiance et son estime. Si les relations ont été vraiment très houleuses et la personne a vécu des choses très difficiles avec ses parents, deux cas de figure. Soit elle a coupé avec ses parents, elle ne veut plus en entendre parler, mais elle est en paix avec ça, soit elle a réparé avec ses parents. Ils ont fini par se parler, trouver un terrain d'entente, et à partir de là, tout va bien, la relation est réparée, et en tout cas, que ce soit parce qu'on ne voit plus les parents, ou parce qu'on les côtoie, ou parce qu'on a eu des bons parents, il faut que la personne soit en paix avec ses parents. On s'entend que les blessures viennent beaucoup de l'enfance, à 90%, c'est les parents qui sont responsables de nos blessures d'enfants, bien sûr. Donc c'est très important, de façon tout à fait anodine, de demander comment ça s'est passé avec les parents. La deuxième question, comment ça s'est passé avec les ex ou avec les autres partenaires professionnels? Parce que là aussi, vous allez avoir une multitude d'informations. Si la personne, sur le plan privé, vous dit « mes ex, toutes des hystériques ou tous des alcooliques », oula, il y a une récurrence dans le choix de ses partenaires. Elle a toujours attiré le même style de partenaire, donc il y a quelque chose qui se produit. C'est son déséquilibre qui a attiré ces personnes-là. Ou si la personne vous dit « écoute, avec mes partenaires, j'ai compris que ça ne pouvait pas cadrer pour telle et telle raison, et maintenant je sais ce que je veux », ça c'est une bonne réponse. Ou « eh bien, regarde, depuis mon divorce, j'ai fait une démarche pour comprendre ce qui s'était produit, pourquoi j'allais d'échec en échec, et aujourd'hui je sais pourquoi, et j'ai établi le portrait robot de la personne que je souhaite rencontrer ». C'est un bon point. La troisième question, c'est la vision du couple ou la vision de la relation professionnelle. Quelle est ta vision? Dans un couple, eh bien, si les deux souhaitent vivre sous le même toit, c'est un bon début. Si l'un des deux veut vivre sous le même toit et pas l'autre, ça commence à accrocher. C'est aussi, veux-tu des enfants? Si l'autre personne n'en veut pas, que c'est un souhait chez vous, ça va accrocher. Il faut vraiment valider que vous avez la même vision du couple ou la même vision du partenariat. C'est-à-dire que si vous tombez sur un partenaire qui veut absolument faire le marketing ou faire les démarches commerciales et vous laisser tout le côté administratif alors que vous êtes nul en administratif et que vous, c'est aussi la partie commerciale que vous souhaitiez, ça va accrocher. Donc il faut vraiment que vous trouviez votre place, un terrain d'entente et de façon à valider que ça va être une relation gagnant-gagnant. Est-ce que ça te paraît cohérent jusque-là, ma chère Sophie? Voilà. Après, c'est de demander où te vois-tu dans 5 ans. C'est vraiment important. Ça peut être l'évolution de l'association. Comment vois-tu notre partenariat dans 5 ans, juste pour avoir une petite idée? Et la personne en face de vous, où te vois-tu dans 5 ans? Si la personne vous répond, moi j'ai demandé ma mutation au Congo et que vous, l'Afrique, c'est pas du tout votre destination, il va y avoir un problème. Ou si cette personne vous dit, moi dans 5 ans, bien je me vois sur un beau voilier blanc, sur les mers du Sud, navigateur solitaire, vous comprenez tout de suite que vous ne faites pas partie du décor. Ou vous êtes dans le même pays, mais la personne, comme moi qui suis au Canada, si je tombe sur un Français qui refuse de vivre au Canada, on va avoir un problème. Donc ça aussi, c'est important de savoir où la personne se voit dans 5 ans. Que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan privé. Et ensuite, posez cette question qui a l'air anodine, quels sont tes regrets? Ça là, c'est très révélateur. Quand une personne vous dit « je regrette de ne pas avoir fait d'études » et vous sentez de l'aigreur chez elle, ça va rester ça. Quand une personne vous dit « je regrette d'avoir trompé mon mari ou ma femme, je serai encore avec », vous savez que vous allez faire ménage à trois parce que la personne est toujours attachée à son ex. Ou quand la personne partenaire d'affaires vous dit je regrette quelque chose qui va être révélateur d'une défaillance chez lui ou chez elle, et que la personne n'a pas réglé ça, n'a pas fait des démarches ou des formations pour pallier à ce problème-là, c'est encore un voyant lumineux rouge qui clignote. On s'entend que sur le plan social, pour vous faire des amis, on sera pas si pointu sur ces questions-là. Néanmoins, vous allez remarquer que vos amis, vous les avez attirés pour de très bonnes raisons aussi, et que peut-être que si vous réfléchissez à ces questions-là, vous saurez pourquoi vous êtes amis avec, ou pourquoi vous avez des difficultés à être amis avec, ou pourquoi vous donnez tout et eux ne donnent rien. Donc ce sont 5 questions que je propose de poser autant au niveau professionnel que privé, juste pour scanner la personne et pour savoir si elle a confiance en elle. Parce que comment savoir si elle a confiance en elle? Il faut se méfier des imitations là aussi, n'est-ce pas Sophie?
Ben oui, certainement.
Il y a beaucoup de gens qui font semblant d'avoir confiance, qui ont l'air d'avoir confiance, qui prennent toute la place. Mais quelqu'un qui prend toute la place, c'est comme quelqu'un qui se cache. C'est qu'il y a une peur qui est là et il y a une volonté de se mettre en avant pour cacher cette peur-là. Souvenez-vous qu'une personne qui est dans la catégorie des dominants, ceux qui ne dominent personne et ne se laissent dominer par personne, ils ne prennent pas trop de place et ne se cachent pas non plus, ils sont exactement à leur place. Donc c'est vraiment d'aller chercher des personnes qui vont être positives comme vous, qui vont être sur le même registre que vous, qui vont se syntoniser avec vous, qui vont être dans les mêmes croyances, dans les mêmes valeurs que vous et avec lesquelles vous aurez du plaisir, parce que moi ce que je préconise et ce que je recommande, eh bien c'est d'avoir du plaisir à tous les niveaux. T'en penses-tu?
Super, oui, volontiers, c'est nettement meilleur que la version contraire.
Exact, moi je suis une femme de plaisir et pour avoir du plaisir avec les gens, quel que soit le domaine, social, privé, professionnel, eh bien c'est de valider qu'on est avec des personnes positives. J'ai pas dit, et je conclurai avec ça, j'ai pas du tout dit qu'il ne fallait fréquenter que des personnes équilibrées, c'est pas ça que j'ai dit. Il ne faut fréquenter que des personnes avec lesquelles vous avez des relations positives, même si elles sont pas forcément équilibrées ces personnes-là, mais au moins vous avez des relations positives avec elles.
D'accord. J'ai quand même une question. La façon dont tu décris tout ça me donne l'impression que les personnes ont un choix énorme et qu'il s'agit de choisir la bonne personne. Et le ressenti que j'ai dans ma pratique professionnelle notamment, c'est que parfois ben, on est prêt à prendre un peu de n'importe qui parce qu'on n'a pas suffisamment de choix. Il y a plutôt pénurie.
Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais le seul domaine dans lequel il ne faut pas prendre n'importe qui, c'est dans la vie affective. Ça, là, c'est très important d'être très sélectif. Mais effectivement, dans la vie professionnelle, on s'entend que ce que j'ai livré aujourd'hui, c'est pour optimiser les relations. Il y a des réalités, des conjonctures auxquelles on ne peut pas échapper non plus. On l'a tous fait, on a tous pris tous les clients qui venaient parce que il fallait bien gagner sa croûte. Après ça, quand le moment est venu de devenir sélectif, et si on peut se le permettre, on va toujours être gagnant dans cette stratégie-là, en allant chercher vraiment des gens avec lesquels on est sur la même longueur d'onde. Mais encore une fois, dans la vie privée, ne faites pas ça, parce que c'est sûr vous allez aller au clash. Tu sais, on dit qu'on est tous des dépendants affectifs, c'est faux. L'être humain est un animal de meute. Il est fait pour vivre en société, en couple, en famille, mais pas à n'importe quel prix. À partir de là, c'est pas vrai qu'on meurt parce qu'on est seul. C'est pas vrai qu'on meurt de solitude, on meurt de la peur de la solitude. Mais il n'est pas démontré qu'un ermite meurt parce qu'il est tout seul. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il faut être très 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 sélectif sur le choix de votre partenaire de vie. Et il faut être sélectif aussi sur le choix de votre partenaire professionnel, c'est-à-dire vos associés. Parce que autant dans la clientèle, Sophie, on peut prendre tout le monde et n'importe qui parce qu'au début on a besoin de vivre, mais en tant que partenaire d'affaires, est-ce que tu serais soumise à cette règle-là aussi?
Non, non, pour avoir un partenaire, un associé par exemple, non, certainement pas.
Tu vois. Donc c'est vrai aussi que tout ce qu'on vient de se raconter, ça paraît très difficile, ça paraît compliqué, il y a tellement de choses à valider, mais je tiens à vous rappeler que quand vous avez appris à conduire, c'était très compliqué aussi. Il fallait regarder le rétroviseur, regarder à droite, à gauche, attacher la ceinture, passer les vitesses, c'était très compliqué. Aujourd'hui, vous allez du point A au point B sans vous en rendre compte. En fait, quand tout cela est bien installé, eh bien, tu n'as même plus à raisonner. Quand tu es en face de quelqu'un, tu sens tout de suite si tu es sur la bonne longueur d'onde ou pas, parce que tu sais écouter ton intuition. Et l'intuition, c'est le meilleur des radars qui soit. Qu'est-ce que tu en penses?
Ah, tout à fait. Ça, c'est ce que je disais au départ. Mais c'est vrai aussi que parfois, on a besoin de guider l'intuition et de se rassurer en ayant d'autres éléments que purement l'intuition pure et dure, si je puis dire.
Oui, d'où les 5 questions. T'as entièrement raison.
Oui, tout à fait.
D'où les cinq questions, mais... En fait, pour pouvoir écouter son intuition, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir confiance en soi. On tombe toujours sur la même chose, la confiance et l'estime.
Oui, clairement.
Donc si tu as confiance en toi, tu as confiance en ton intuition, puis quand ton radar te dit « Oh, oh, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas », eh bien, tu as cette capacité de dire à l'autre « Je vous remercie beaucoup de votre proposition, mais je ne donnerai pas suite. » Même si tu n'es pas capable d'expliquer pourquoi.
Mmh.
Mais cette confiance en toi va faire que tu vas avoir une confiance absolue en ton radar. Et en ayant confiance, tu distingues les peurs de l'intuition. Parce que parfois, quelque chose, ta petite voix te dit ne fais pas ça, mais est-ce que c'est parce que tu as peur de le faire ou est-ce que c'est parce que ton subconscient te dit non, il y a un piège? Là encore une fois, il faut avoir confiance en soi pour savoir détecter si c'est par peur de le faire ou si c'est parce que ton subconscient est en train de t'avertir qu'il y a un voyant lumineux rouge qui clignote.
Ok. Bien, en tout cas, merci pour ces questions tout à fait pertinentes qui vont nous permettre de bien choisir nos partenaires, que ce soit dans n'importe quel domaine de notre vie. Et je voulais te demander, Pascal, si certaines de nos auditrices ont envie d'en savoir un peu plus sur toi, sur ce que tu fais, ou aller plus loin dans le sujet qu'on a abordé aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut aller plus loin avec toi ?
C'est très simple, en m'écrivant, on peut aller sur mon site www.pascalpiquet.com. Il y a mon adresse email qui est à la fin de chaque page, et c'est avec grand plaisir que je répondrai à toutes les questions, parce que ça c'est vraiment ma passion d'éclairer quand les personnes sentent que ce que je dis est cohérent et pertinent pour elles. Donc c'est avec grand plaisir, allez-y, écrivez-moi et je vous répondrai. Sur mon site il y a des chroniques aussi, j'en écris depuis 2007, donc il y a beaucoup de chroniques qui répondent à beaucoup de questions. Et puis bien, il y a beaucoup d'informations aussi sur www.pascalpiquet.com. Et je veux dire qu'à travers ta belle démarche, Sophie, puis je te félicite de cette démarche, eh bien, je me mets vraiment à la disposition des personnes qui se rallient à nous, parce que c'est un plaisir pour moi de partager ce que j'ai compris de la vie.
Super. À ce propos, d'ailleurs, je suggère à nos auditrices de faire part de leurs remarques, de leurs questions et de leurs témoignages, si elles ont envie de témoigner, dans les commentaires en dessous de cette page, dans le bas de cette page-ci, où elles écoutent la conférence. Et tu pourras aussi venir, je te recommande de venir aussi sur le site Réussir au féminin, répondre aux questions, éventuellement repréciser tes coordonnées, etc., pour garder le contact et maintenir l'esprit de cette conférence et l'esprit du sommet.
Ah, ce sera un plaisir pour moi. Tu sais, je suis aussi bavarde en parole que sur un clavier.
Que par écrit. Super. Donc je te dis au revoir et en tout cas un tout grand merci de nous avoir partagé toute cette expérience et tout ton savoir. Et donc je recommande à nos auditrices de venir mettre leurs commentaires, remarques et questions sur le site.
Et merci à toi Sophie de m'avoir donné cette belle opportunité.
Merci. Au revoir.
Au revoir.